C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin, M. Poilievre, le chef conservateur qui est en tournée au Québec. Je pense qu'il est à Québec aujourd'hui. La question est très simple. Est-ce qu'il va être capable de séduire les Québécois? Nathalie.
Ah, c'est une grande question, Paul, ce matin. J'ai envie de te dire qu'il aura besoin de plus d'une tournée pour convaincre les Québécois de qu'il a ce qu'il faut pour diriger le pays. En fait, son affaire actuellement, son opération Grande Séduction, ressemble davantage à une séance de speed dating. Avec 19 % d'intentions de vote au Québec, selon le dernier sondage léger publié en décembre, on s'entend pour dire qu'une grosse côte a remonté. Selon moi, il y a trois choses qu'il doit faire pour redorer son blason au Québec. La première, c'est de ne plus se comporter en mini-Trump canadien. Le populisme à la Trump au Québec, ça sonne faux. C'est perçu comme une menace envers le pays, mais une menace aussi envers les institutions, envers nos institutions. Et j'ajouterais que son appui inconditionnel au convoi des camionneurs l'a bien servi lors de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Mais aujourd'hui, ce convoi a laissé un goût amer à beaucoup de Canadiens dans la bouche. Ça serait la première chose qu'il doit faire pour redorer son blason. La deuxième, ne plus bouder les médias traditionnels. Il a remarqué qu'il commence à le comprendre. La preuve, c'est qu'il a fait une série d'entrevues là, depuis qu'il a annoncé sa tournée au Québec. Les médias ne sont pas des ennemis du peuple, M. Poilievre. Et les médias sociaux, eux, ont leurs limites. Et en troisième, chose à faire, selon moi, c'est de partager sa vision du pays plutôt que de se complaire dans un discours ultra-partisan. Juste inflation, c'est son invention. Il a été rabroué par le président de la Chambre. T'sais, il y a vraiment un discours très, très, très anti-Trudeau. Mais s'il veut nous convaincre, il devra aller au-delà de ça. Pour l'instant, il suscite davantage la méfiance que la confiance. Alors, je lui souhaite bonne chance pour la suite.
Moi, je suis, comme tout le monde, en admiration devant le Poilievre nouveau. Biologique, ouais. Naturel, retour aux sources de la maison Poilievre, sans additifs, vieilli en cuve. Écoute, moi j'y ai goûté, c'est délicieux là.
Mais
équitable, 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 il est équitable. Il n'a pas été testé sur des animaux. Poilievre émerge de sa chefferie conservatrice, puis là il arrive au monde. Il sort des salles bruyantes du Parti conservateur où il s'est fait plaisir en parlant de, justement, la juste inflation, la liberté contre l'État sanitaire, la dénonciation de nos dangereuses institutions comme Radio-Canada, puis la Banque du Canada. Faut se débarrasser de ça. Ça a fait plaisir. Il va gagner à 100% certains comtés de l'Alberta. Et il va perdre l'élection. Comment tu peux être aussi cruche que ça? Comment ça se fait qu'année après année, ils comprennent pas? Que t'as beau être craqué à mort, t'as le droit juste à un vote. Puis que si tu mets tous tes votes dans le même comté, tu gagneras pas. Ce que M. Poilievre doit gagner, ce sont les villes du Canada. Si tu gagnes pas les villes du Canada, tu gagnes pas l'élection. Et c'est la raison pour laquelle Trudeau est élu trois fois de suite, puis il va peut-être l'être une quatrième fois. Et c'était la même chose pour Peter O'Toole, c'était la même chose pour Andrew Scheer. Tu peux pas gagner le Canada si tu gagnes pas les villes du Canada. Alors, il a compris ça. Et il retourne à un vrai discours conservateur qui est pas mauvais. Un discours conservateur pour les conservateurs qui est pas mauvais. Processus d'approbation des projets est trop long. Ça va plaire à Legault. Processus d'approbation des projets, il dit que ça peut prendre jusqu'à 30 ans, mais évidemment, c'est une enflure, là, mais quand même. Les investisseurs perdent trop de temps pour faire approuver des projets, notamment des projets de pétrole, mais il veut aussi des barrages. Il dit faut construire des barrages, faut creuser des puits de pétrole. Faut arrêter d'écœurer les investisseurs. On va exploiter nos ressources pour créer des emplois et de la richesse pour les Canadiens. Ça, c'est le message de base de Harper, créer des emplois et de la richesse pour les Canadiens. Je dis Harper parce que c'est là, il se redirige vers les lignes conservatrices qui ont fait gagner Harper. Regardez son message sur les impôts. Il dit qu'évidemment, comme c'est normal, c'est du conservateur de bon cru de dire que les Canadiens paient trop d'impôts. La phrase qu'il utilise, on a une pénurie de main-d'œuvre en partie parce que ce n'est pas payant de travailler. Ça c'est une exagération, tu sais. Mais quand même, ça frappe les gens. Ah, OK, c'est à cause de ça, la pénurie de main-d'œuvre, ça se passe qu'il y a trop d'impôts.
Mais j'ai une question pour vous deux, parce que vous avez de l'expérience de campagne électorale. Puis j'ai écouté l'autre jour un masterclass donné par deux stratèges, un des républicains puis un des démocrates. Et c'est pas d'époque Trump, là, c'est Bush et Obama. Et je me souviens, un des deux, Axelrod, je pense qu'il a dit, qui travaillait avec Obama, si tu veux te faire élire comme candidat de ton parti, puis il faut que tu tiennes un discours extrême. Autrement dit, pour séduire ton électorat de droite, tu vas te peinturer dans le coin, puis quand tu vas essayer de rejoindre la majorité des gens une fois élu, tu seras pas crédible. Les gens vont dire, c'est pas le gars qu'on a élu, ou on croit pas à la sincérité
du virage. Ta réputation est faite.
Exactement. Est-ce que tu penses, puis Nathalie aussi, est-ce que vous pensez qu'il s'est peinturé dans le coin, puis qu'il pourra pas sortir de ça? Luc, peut-être, puis après ça, Nathalie.
Il s'est peinturé dans le coin, vraiment. Et s'il se dépeinture du coin, il va perdre des votes conservateurs. Mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il perde des votes conservateurs. Le Wild Rose, là, n'a jamais réussi à sortir de quelques comtés de l'Ouest du Canada. T'es obligé de... Et là, il a commencé l'opération, là. Il a commencé l'opération à se dépeinturer. Mais tout le monde se rappelle qu'il a dit qu'il fallait éliminer la Banque du Canada, qu'il fallait remplacer ça par de la crypto-monnaie. Puis tout le monde se rappelle de ces lignes-là. Il va falloir qu'il travaille fort en maudit. Moi, je sais pas si c'est même possible, une fois que ta réputation est faite, de la changer. Je pense que non.
OK, Nathalie.
C'est vrai que c'est peinturé dans le coin. Moi, je pense qu'il y a une place pour la droite au Canada. La question, c'est de quelle droite souhaite s'abreuver le Parti conservateur du Canada au pays. Il faut dire que, comme aux États-Unis, le Canada aussi est divisé parce que notre ami Poilievre, qui fait 30 % d'intention de vote dans l'Atlantique, 47 % Manitoba, Saskatchewan, populaire en Alberta, a un discours, il adapte son discours selon les provinces où il tente de se faire connaître et d'obtenir des appuis. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas le choix il n'y aura pas d'autre choix que de tendre vers le centre. C'est exactement ce que François Legault a fait, Paul. En 2012, le discours de François Legault, c'était quoi, là? Les hauts fonctionnaires qui pensent pas comme nous, on les met tous dehors, puis ils voulaient faire un grand ménage dans l'appareil gouvernemental. Et écoute, il y a l'air du petit pitou, là, qui vient de rentrer dans sa niche, là. Tu sais, je veux dire, dans le sens que c'est une image que j'utilise, évidemment, pour illustrer à quel point, quand on arrive au gouvernement, tu gères pour une majorité d'électeurs, tu gères pas pour certains groupes. Et dans ce sens-là, l'image que projette Pierre Poilievre, c'est un chef qui semble divisé plutôt que rassemblé.
Oui, puis Nathalie, divisé, t'as raison, là, parce qu'il n'y a pas juste l'image. Il y a que, pour se faire élire, et c'est tellement rapproché de ses troupes de droite, qu'il a perdu le contact, il a renvoyé, ou j'ai pas trop compris, c'est-tu Alain Reyes qui est parti ou c'est lui qui l'a renvoyé?
Non.
Ouais, en fait, les deux, là.
Oui, sauf que la job de bras qu'a fait Alain Reyes, ça a laissé des traces au Québec.
C'est ça. Puis là, on voit personne monter au front pour lui, là. Gérard Deltel, il est où? Puis quand tu tâches Jean Charest de la façon dont il l'a fait, là, de façon méprisante puis en riant quasiment de lui. Mais quand tu fais ça, après ça, tu te coupes énormément de conservateurs québécois.
Non, mais il s'est comporté... Mon Dieu, j'ose à peine dire l'expression, mais je vais le dire, d'accord? Comme un chat de ruelle durant la campagne à la chefferie du Parti conservateur du Canada. C'était tous les moyens sont bons pour se faire élire. Là, aujourd'hui, il y a l'épisode d'Alain Reyes, pour lui, ses troupes-là et sa garde rapprochée, c'est extrêmement révélateur. Le message qu'on a envoyé, c'est que tu peux pas traiter un ancien député comme tu l'as fait. Puis au Québec, au Canada, on ne veut pas faire de politique à l'américaine, on ne veut pas faire de politique à la Trump. Alors, d'une certaine façon, on a tourné le dos à cette façon de faire de Pierre Poilievre. Maintenant, on a encore... La porte est encore ouverte pour dire, OK, on est prêt à t'entendre, mais c'est à toi de nous convaincre du bien fondé de ta vision des choses. Tu parlais de fiscalité, Luc, tantôt. Lorsqu'il dit que le système fiscal pénalise le travail, il a raison d'une certaine façon parce qu'il dit les gens travaillent fort, ils font des heures supplémentaires puis il en reste de moins en moins dans leur poche. Ce discours-là au Québec, c'est hyper, ça a beaucoup d'écho, c'est hyper populaire. Bon, est-ce que dans les faits, ça va se traduire, comment ça va se traduire chez les conservateurs, on n'en sait trop rien. Mais sur le plan du message, il a d'excellents messages. Maintenant, c'est à lui de nous convaincre.
Merci beaucoup. Au retour de la pause, on va parler du bilan des accidents de la route, morts et blessés, qui a été présenté par la Sûreté du Québec. Le Québec demeure un endroit sécuritaire, mais force est de constater que le nombre de personnes qui se tuent ou qui se blessent grièvement est à la hausse.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, regardons le bilan présenté par la Sûreté du Québec en matière de sécurité routière. Globalement, le Québec se comporte bien, se place bien, là. C'est un endroit sécuritaire. Mais depuis quelques années, le nombre de personnes qui se tuent au volant ou qui se blessent grièvement est à la hausse. Et il y a un phénomène qui est pas dédaigné, là. 30 % des gens impliqués dans ces accidents sont blessés ou se tuent, entre autres parce qu'ils sont pas attachés. Tu pourrais mourir pareil, mais disons que M. Leduc, ce matin, donnait l'exemple de deux jeunes qui étaient pas attachés. Décembre, un accident, sortie de route, là, ils ont été éjectés du véhicule et les deux kids sont morts. Et probablement qu'ils auraient survécu s'ils avaient été attachés. Alors, tout ça pour dire que quand même, disons, un message dans cette étude, dans ce relevé qui a été fait. Puis la question qu'on pose ce matin, est-ce que les Québécois ont, disons, levé le pied, sont moins rigoureux quand ils conduisent? Luc?
Ben c'est fascinant parce qu'il y avait eu une progression importante, là, tu l'as mentionné. On était passé, ben, comme dans tous les pays du monde, hein, d'ailleurs, on est passé de 500 à 200 au cours des décennies. Puis là, les chiffres de cette qui sont tombés hier là, nous indiquent une augmentation de 25% en un an, cette année, par rapport aux cinq dernières années. C'est 291 décès par rapport à 253. Et quand tu regardes chez les piétons, les automobilistes qui ont tué des piétons, c'est 40% d'augmentation. Hey, 40%, là, t'effaces beaucoup de
gains. Ça inclut pas Montréal, là, je veux juste...
Ah, c'est ça, c'est le territoire de la SQ.
C'est ça, exact.
Le territoire de la SQ, ça inclut pas Montréal, Laval, Québec, Longueuil. Si tu ajoutes tous les décès dans les municipalités, là, tu dépasses facilement le 70, qui était notre dernier record. Quoique les chiffres sont à venir, mais on peut prévoir que ça va dépasser le 70. Et donc, 40% d'augmentation, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts consentis par les corps publics, par les campagnes de sensibilisation qui sont jetées au vidange. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de noter que on n'a jamais eu plus d'accidents que depuis que les gens sont en télétravail. T'es en télétravail. Il devrait y avoir beaucoup moins de déplacements. Il y a beaucoup des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas à se déplacer. Puis t'as ces bilans-là. Comment ça se fait? Ben, c'est pas compliqué. Les gens ont délaissé les transports en commun. Parce que tu vas entrer au travail une fois par semaine, tu peux bien prendre ta voiture, ça coûte moins cher. Ensuite de ça, tu penses qu'il va y avoir moins de monde sur les routes parce que ça a été le cas pendant 2 ans. Ensuite de ça, les déplacements sont pas les mêmes parce que tu es à la maison, mais tu vas te déplacer pour aller à l'épicerie, tu vas te déplacer pour aller à l'aréna, etc. Des petits déplacements. La semaine de travail a rétréci. Tu vas aller tu vas prendre une fin de semaine de 3 jours, tu vas faire de la distance. Toujours est-il qu'il y a plus d'autos. Il y a plus de SUV au nombre de, dans le pourcentage de voitures, c'est plus maintenant dorénavant 75% de SUV avec des angles de une visibilité qui est moins grande, des voitures plus puissantes, c'est normal qu'il y ait plus d'accidents. C'est normal. C'est ça les critères, plus d'auto, plus de vitesse, plus de kilomètres parcourus.
Ben moi, je me permets ce matin une lecture différente de la vôtre. Le bilan que fait la SQ année après année, pour moi, ça ressemble de plus en plus au jour de la marmotte. Et je peux vous dire que la marmotte, elle commence à être fatiguée parce que c'est toujours la même rengaine, c'est-à-dire le même discours. Une année, on se réjouit que le bilan s'améliore. L'année suivante, on se désole parce que le bilan s'assombrit. Et tu parlais, Paul, de 30% des victimes décédées ne portaient pas de ceinture, leur ceinture de sécurité. Donc, pratiquement le tiers des personnes qui sont décédés en 2022, mais en 2015, la proportion, c'était 21%. Le nombre de, en 2015, 245 collisions mortelles, en 2002, 266. Fait que sur presque 10 ans, on se rend compte que finalement, on fait du surplace. Ça ne fonctionne pas. Moi, c'est le constat que je tire. Et c'est Paul Leduc, à ton micro, l'homme a l'air découragé. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est que peut-être que la situation est imputable au comportement post-pandémique. Bon, peut-être. Mais moi, ce que je vois dans toutes ces données, c'est que la stratégie de la SAAQ ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la responsabilité repose uniquement sur les épaules des conducteurs automobiles. En fait, ce qu'on vise dans toutes les stratégies, dans toutes les campagnes, écoutez, si on avait la solution, là, ça fait combien de millions qu'on investit en campagnes publicitaires de toutes sortes depuis des années? Je veux dire, la SAAQ là, fait preuve d'une imagination incroyable pour capter notre attention. Des publicités qui nous font sursauter, là, qui sont vraiment très, très dures. Mais malgré tout ça, les choses ne s'améliorent pas. Alors, si les choses ne s'améliorent pas, pourquoi on continue de privilégier toujours la même approche? Et là, j'arrive, et Luc, tu as sûrement, et Paul, vous avez certainement entendu parler de l'approche Vision Zéro. En fait, l'approche de Vision Zéro est très différente de l'approche de la SAAQ. La SAAQ, l'approche qu'elle privilégie, c'est l'approche du système sûr. Elle dit, c'est le conducteur qui est fautif, alors on va pénaliser le conducteur, puis on va s'organiser pour y faire la vie dure. Alors que la vision zéro, c'est dire non, 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 non. On change complètement le paradigme. Et le paradigme, c'est dire on influence la façon dont on conçoit nos routes et nos autoroutes pour éviter qu'il y ait de plus d'accidents. L'exemple, la Suède. Oslo, ville d'Oslo, comparable à Québec, une personne décédée sur les routes d'Oslo en 2019. La personne était rentrée dans une clôture. Alors, non, mais c'est vrai, moi, je pense...
Malheureux que nous, misère.
As-tu vu ça, toi? Non, mais honnêtement, il me semble qu'il faut se questionner. Ben, vous êtes pas... On sait toujours la même rengaine à chaque année. Le Paul, ça fait combien d'années que tu fais de la radio? C'est toujours la même affaire.
Il y a des différences.
Le monsieur de la SQ... Ouais,
non,
ben, oui, mais...
je trouve qu'il y a des différences quand même. La première différence... D'abord, au fil des années, c'est vrai que le bilan s'est grandement amélioré. Tu sais, sur l'alcool au volant, puis l'autre chose, on va se le dire franchement, comme les véhicules sont mieux faits qu'avant, des gens qui mouraient aujourd'hui vont être blessés grièvement, puis des gens qui sont blessés grièvement vont être blessés un petit peu moins. Pis ça, c'est statistiquement, ça se démontre. Ce qui est plus difficile à démontrer, c'est que c'est compliqué, de façon générale, se déplacer. Les congestions, les travaux. Les gens deviennent irrités. Les gens deviennent frustrés. On est distrait par un paquet d'affaires dans l'auto. Tu sais, le téléphone, la radio, bon.
Vidéo.
Mais oui, puis les gens ne se tuent pas tellement en allant travailler. Ils vont se tuer les fins de semaine, ils vont se tuer le soir, la nuit, parce qu'ils vont dépasser, parce qu'ils vont rouler vite, parce que c'est la vitesse, l'alcool, puis la distraction. C'est les trois éléments. Mais ça revient tout le temps, c'est sûr, mais...
Mais c'est ça.
Tu peux pas faire
mais moi,
grand-chose.
J'en ai une proposition.
Non, moi, je
j'ai
pas...
Un petit
moi,
de c'est quoi la proposition? Avant Noël, il y a 9 maires de petites municipalités du Québec qui sont sortis puis qui ont dit au ministère du Transport... Par pitié, les routes nationales qui traversent nos villes et villages, on voudrait les gérer. Parce que...
Ben, c'est la vitesse.
La vitesse. Et puis, la réponse du MTQ, pas de réponse. Moi, je commencerai à envoyer des pétards à la farine au MTQ jusqu'à temps qu'ils répondent à cette demande-là, par la malle. Puis à partir d'un certain nombre de mois, des pétards moitié farine, moitié marde. Parce que... parce que là, le MTQ, là, ils ont décidé que c'était la fluidité. Puis que ça, quand tu passes à travers un village, alors c'est une route nationale. C'est la 117, non. C'est la 132, c'est la 138. Regarde, j'ai devant les yeux là, les demandes des maires, des municipalités, des Laurentides pour avoir un feu rouge, un ralentissement, un rétrécissement. Route 364, chemin Adam, 8 ans qui demande, le maire de Saint-Sauveur, 8 ans qui demande un feu rouge, pas de réponse.
Boulevard, non, c'est l'enfer.
Boulevard Curé-Labelle, route 117, le maire de Prévost veut avoir des feux prioritaires, pas de réponse. Okay. Chemin Pierre-Péladeau, pas de réponse. Partout, Saint-Adèle a fait une demande en 2020 pour réduire la vitesse à 50 km dans son patelin. Non, pas de réponse. Le MTQ a refusé. Là, le MTQ, là, vous le voyez, le rapport de la Sûreté du Québec un matin, là? C'est quoi votre réponse?
Ouais, mais moi, je persiste et signe, Paul puis Luc. En 2013, les chiffres sont dans le Journal de Québec et de Montréal ce matin, 283 décès. En 2019, 232. Waouh, ça s'améliore. Mais en 2022, 291. Alors, quand tu dis, Paul, ça s'améliore pour un petit bout après ça, oups, ça se détériore. Alors, cette espèce de yo-yo là, tu sais, avec lequel on compose sur le plan des décès,
mais
fatigue,
le vieillissement de la population,
ça.
Là, ça c'est un sujet un peu tabou, mais ce matin les chiffres le montrent, là, il commence à avoir de plus en plus de gens âgés qui sont impliqués dans des accidents mortels.
Oui, et ça, notamment les piétons, hein, à peu près 50%.
Aussi, ouais.
50% des piétons là traversent plus lentement.
Moi, je pense qu'il faut changer d'approche, mais bon, enfin.
Merci à tous les deux, soyons prudents.
C'est 23.